Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Le Ridon, Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Sylvain Latu. Nouvelle série consacrée donc au rapport entre politique et religion, foi politique, pouvoir religieux. Nous parlerons cette semaine du bouddhisme qui se mue parfois en nationalisme, du Sri Lanka à la Birmanie. Nous évoquerons le cas de l'Inde où la laïcité y est menacée par l'hindouisme radical de son premier ministre Narendra Modi. On parlera également du schisme dans l'appareil d'État de l'Iran et de l'Irak. Mais pour commencer, direction les États-Unis, les évangéliques, salut électoral de Donald Trump. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
From the first day in office, I've taken...
Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai pris une décision historique pour soutenir les familles américaines et pour protéger les enfants à naître. J'ai prévenu le Congrès que je mettrais mon veto sur toute législation qui affaiblit les politiques pro-vie ou qui encourage la destruction de vie humaine. Les enfants à naître n'ont jamais eu meilleur défenseur à la Maison Blanche.
C'est très important. Nous avons eu des présidents pro-vie et pourtant ils ne sont pas venus aux marches. Et Trump se pointe. J'imagine que c'est un peu effrayant pour lui à cause des menaces, mais cela montre à quel point il soutient le mouvement pro-vie et combien il se soucie de la vie.
Je ne sais pas vraiment s'il a changé ou si cela fait partie d'une posture politique. Mais quoi qu'il en soit, je suis confiante. Il connaît sa base électorale. Il compte sur le vote des militants pour la vie. S'il continue dans cette voie, nous voterons pour lui.
Fin janvier, Donald Trump s'est rendu à la Grande Marche pour la vie, un événement majeur pour les militants anti-avortement et pour les courants évangéliques du pays. En 2016, cet électorat de protestants évangéliques avait massivement voté pour lui et c'est donc un vivier déterminant pour espérer se faire réélire en novembre prochain. Mais pourra-t-il y parvenir? Que fait-il d'ailleurs pour les convaincre? Et d'ailleurs, quelle influence ont-ils à la Maison Blanche? Du vice-président Mike Pence au secrétaire d'État Mike Pompeo, en passant par la conseillère religieuse et télévangéliste Paula White, qui sont ces voix qui murmurent à l'oreille du président? Et puis enfin, Donald Trump pourra-t-il compter sur l'ensemble des Américains évangéliques? Pas sûr, puisqu'il compte aussi dans leur rang des opposants, comme on l'avait vu avec notamment cet important magazine de la communauté, Christianity Today, qui avait soutenu la procédure de destitution du président et qui avait même officiellement appelé à le faire battre dans les urnes. Alors pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Blandine Chaligny-Pon. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'Université d'Aix-Marseille. Vous aviez co-signé Géopolitique des religions avec Roland Dubertrand et Valentine Zuber. Avec nous également en duplex de Lille, Mokhtar Benbarka. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'Université Polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes. Vous aviez signé, vous, notamment, le protestantisme évangélique nord-américain en mutation, la gauche évangélique des origines à l'ère Obama, mais aussi un autre ouvrage un peu plus ancien sur la droite chrétienne américaine. Il nous faudra évidemment faire ce travail de perspective historique pour comprendre comment ces mouvements évangéliques ont pénétré le paysage politique américain, parce que ça n'a pas toujours été aussi évident que cela. On va commencer peut-être avec vous, Blandine Chaligny-Pon. On a choisi de mettre un extrait du discours de Donald Trump à cette marche pro-life à laquelle il a pris la parole. Donald Trump, c'était la première fois qu'un président participait à, depuis l'instauration de ce mouvement en 1974, à ce type de rendez-vous. On a assez peu de doutes sur le fait qu'il s'agit là, évidemment, d'un message à l'adresse de son électorat évangélique qui est au cœur de son système électoral. Disons-le tout de suite comme ça.
Il est au cœur de son système électoral dans la mesure où le vote évangélique, qui est quand même un vote large du point de vue des dénominations, des courants qui peuvent le porter, a été estimé aux dernières élections présidentielles à peu près 70-80% des votants. Donc c'est un électorat absolument solide qui est, au-delà de la personne de Donald Trump, un électorat avant tout républicain depuis très longtemps.
Sachant que ça n'a pas toujours été le cas et que, en fait, en réalité, il y a effectivement des courants et que on ne peut pas voir tout cela comme un bloc monolithique, mais on va évidemment apporter de la complexité. Mokhtar Benbarka, il y a évidemment cet appel du pied, j'allais dire, à travers cette participation à la marche pro-life, mais c'est pas seulement des prises de parole. Il y a aussi une stratégie très concrète qui vise à mobiliser cet électorat. Il y a 2 ou 3 semaines, on a par exemple lancé ce groupe évangélique pour Trump dans l'Iowa, sous la houlette du vice-président Mike Pence. Donc on voit que cette remobilisation des évangéliques, elle est très formalisée, Mokhtar Benbarka.
Tout à fait. Je voudrais préciser également que Mike Pence, en 2007, avait participé à la marche pour la vie. Donc c'était la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un vice-président participe à ce genre de manifestation. Et en janvier, comme vous l'avez signalé auparavant, donc de cette année, c'est autour du président Trump de faire de même, de participer à cette 47e marche et en devenant le premier président à participer à ce genre de marche. Mmh. Effectivement, là, il est en pleine campagne, bien évidemment, et il est conscient du fait que c'est un socle électoral solide, et depuis d'ailleurs la fin des années 70, début des années 80, aucun candidat républicain ne pouvait et ne peut encore prétendre remporter des élections sans l'appui de ces évangéliques qui, permettez-moi de le rappeler d'emblée, représentent le quart de l'électorat américain. Donc il ne peut en aucun cas se passer de cet électorat qu'il est en train de redynamiser, qui lui a à plusieurs reprises témoigner de son soutien indéfectible.
Blandine Chélini-Pont, c'est important, Mokhtar Benbarka le faisait, de rappeler ce que représente d'un point de vue démographique effectivement ce groupe-là. C'est à peu près 25% des Américains en âge de voter, mais c'est un petit peu en retrait quand on regarde les choses. L'évolution démographique, on est un peu en recul. C'était 28% en 2009, plus seulement 25% aujourd'hui. Donc on a une démographie plutôt en retrait.
Alors, les évangéliques, historiquement, ont effectivement connu une très forte croissance au détriment des ce qu'on appelait des églises mainline, des églises traditionnelles, anciennes, historiques, qui étaient encore majoritaires au milieu des années 50 et qui ont reflué avec l'accroissement ou la croissance des évangéliques, ayant quasiment atteint 30% de la population américaine il y a quelques années. Mais ce mouvement s'est arrêté et il est en train de faire un reflux important, d'abord du fait sans doute de ce que les jeunes générations évangéliques blanches basculent pour certains dans la non-religion, donc deviennent indifférents religieusement, et du fait aussi que les évangéliques ont un groupe concurrentiel. Alors est-ce qu'il va se séparer, se distinguer ou faire partie de cette grande famille un peu mobile qui est le groupe des Prosperity Gospel, qui est en train de grossir très vite. Donc, les évangéliques eux-mêmes sont à la fois solides, mais ils ne sont pas stables dans leur, dans leur délimitation.
Il y a les groupes, et puis il y a les thèmes aussi, qui sont rattachés, évidemment, à ces groupes-là. Au lendemain de l'élection de Donald Trump, Blandine Chélini-Pont, vous aviez fait un travail pour essayer de regarder, justement, où est-ce qu'on en était de ces thèmes qui sont très liés, évidemment, aux convictions religieuses des évangéliques, et vous aviez noté qu'ils étaient plutôt en recul, alors même que ils avaient permis à Donald Trump de l'emporter, j'entends, il n'empêche qu'ils étaient plutôt globalement en recul, ces fameux thèmes. Comment le comprendre, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 4 ans plus tard?
Eh bien, là peut-être a été le, entre guillemets, le génie électoral, enfin de l'équipe qui a conseillé Trump, de remobiliser justement au moment de la campagne de 2016 cet électorat religieux, car dans les sondages qui avaient précédé les thèmes de campagne, les questions, même si effectivement les questions de morale, l'avortement, le mariage gay, la bioéthique sont au cœur de cet électorat, il y avait quand même eu une forme de retrait de leur, à la fois de leur présence et de leur mobilisation, parce que d'autres thèmes, avec la crise économique, la crise écologique, le chômage, enfin le recul de l'Amérique, avaient pris le dessus. Et tout en utilisant ces thèmes, tout en travaillant ces thèmes, l'équipe de Trump a remobilisé l'électorat religieux, au-delà même des évangéliques, autour de thématiques morales qui ont sans doute contribué puissamment au dernier moment à faire basculer les voix qui lui auraient manqué.
En rappelant qu'il est passé, il a été élu vraiment à très peu de vannes, très courte avance. Mokhtar Ben Barka, je vais vous poser la question de façon un peu brutale, à dessein. En 2016, les évangéliques avaient voté à plus de 70% pour Trump.
81% exactement.
À quoi on peut s'attendre pour la prochaine élection de novembre prochain? Est-ce qu'ils seront aussi nombreux, moins nombreux, plus nombreux? Comment vous sentez les choses, Mokhtar Ben Barka?
À mon avis, ils vont être tout autant, voire plus, pour voter en faveur de Donald Trump, tout simplement en tablant, à mon avis, bien évidemment, en tablant sur son bilan. Il faut savoir que Donald Trump est l'unique président à faire autant pour les évangéliques que n'avait fait Reagan, qu'il avait soutenu, ces mêmes évangéliques, en 1979-80, et George Bush, donc, lorsqu'il il avait bénéficié pour son élection et sa réélection d'à peu près 78% des votes évangéliques.
Vous nous rappelez, Mokhtar Ben Barka, en quelques mots, le bilan précisément de l'action de Donald Trump pour les évangéliques?
Alors il donne entière satisfaction aux évangéliques dans la mesure où il a déjà nommé deux juges à la Cour suprême, un en 2017, Neil Gorsuch, et puis en 2018, Brett Kavanaugh. Il a par ailleurs nommé plus de 180 juges fédéraux dans des tribunaux, ce qu'on appelle inférieurs, fédéraux inférieurs. Ça, c'est extrêmement important. Il a bien évidemment décidé de signer le projet de loi voté par le Congrès en 1995 permettant le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, le plan de paix qu'il a proposé et qu'il a concocté depuis 2017 avec son gendre et qui est largement en faveur de l'État d'Israël et choisissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Il promet également, mais là c'est à voir parce que c'est pas, il peut pas décider tout seul, d'abroger l'amendement Johnson de 1954 qui interdit aux organisations religieuses de prendre une part active dans la vie politique. Mmh. Et donc, tant de promesses et de, bien évidemment, il donne des garanties, pour renforcer la liberté religieuse. Autant dire qu'il a suspendu également les financements à des organisations internationales qui encouragent, ou promeuvent l'avortement. Ouais. Donc des politiques et des signaux et des politiques franches, directes, en faveur des demandes, répondant aux demandes des évangéliques, qui ne peuvent que donner satisfaction.
Qui apporter satisfaction et donc laisser entendre, effectivement, qu'il pourrait être à nouveau au rendez-vous pour l'élection de 2020. Blandine Chélé-Nippon, est-ce qu'il y a un mot à ajouter sur la question du bilan? Et puis peut-être pour poursuivre, il y a quand même un paradoxe Trump qui est que Trump soit apporte satisfaction aux évangéliques, mais il n'est pas quand même un homme dont la pratique de la religion est reconnu par tous. Il préfère passer son dimanche au golf plutôt qu'à l'église. Il a divorcé deux fois, il a des casinos. Rappelons que chez les évangéliques, on n'a pas le droit de jouer aux jeux d'argent. Bref, ce n'est pas un parangon de vertu concernant un certain nombre de valeurs qui sont portées par les évangéliques. Alors comment comprendre qu'il soit quand même soutenu par les évangéliques ? Le bilan, finalement, suffit à convaincre tout ce monde qu'il est l'homme de la situation.
Avant le bilan, il y a eu les promesses. Il y a eu les promesses et en quelque sorte l'alliance qui a été faite pendant la campagne électorale entre Trump et les grandes pointures médiatiques, pour le moins, de la nébuleuse évangélique.
Et c'est... Vous pensez à qui ?
Alors, en fait, on en a un peu le catalogue à travers le conseil consultatif évangélique de campagne qui n'a pas été abrogé au moment où il est devenu président et qui continue à fonctionner comme son conseil religieux particulier. Et à l'intérieur, vous retrouvez des grandes pointures, enfin des gens qui sont très très médiatiques, très connus, comme par exemple Ralph Reed, qui est le patron du Faith and Freedom Coalition, qui est un très très gros lobby, Richard Land, qui est l'ancien patron de la Southern Baptist Church, qui avait soutenu activement à l'époque l'entrée en guerre des États-Unis en Irak. On a aussi James Dobson, qui est vraiment très très connu et qui est le tout puissant patron d'un autre lobby qui s'appelle Focus on the Family. Bon, donc tous ces gens-là. Oui, Tony Perkins aussi, du Family Research Council, qui, par exemple, organise un grand congrès qui s'appelle Value Voters, qui a plusieurs reprises invité, enfin à plusieurs reprises, au moins avant la campagne, en 2015-2016, qui avait invité Trump. Et donc, à chaque fois, ce conseil a donné ses directives à Trump. Et les gens ont voté pour les promesses et pas pour la personnalité non religieuse de Trump.
Vous avez oublié une grande personnalité évangélique dans l'entourage de Donald Trump, c'est Paula White.
Les gens disent que je suis folle. Elle prie à la Maison Blanche. Mais bien sûr que je prie là-bas, au nom de Jésus. Mais évidemment que j'y vais pour élever les esprits, trouver des réponses à leurs questions, dans ce qui est une terre sainte. Tout le monde croit que Donald Trump a eu la foi d'un coup. Mais non, il y a 15 ans déjà, en tant que téléspectateur régulier, il regardait mes émissions et avait soif des mots de Dieu. Et il m'appelait pour me poser des questions.
Paula, je vous l'ai déjà dit, ils vous ont fait taire politiquement et moi, c'est vous que je veux écouter pour ma politique.
Voilà, c'est effectivement Paula White qui a été très récemment nommée conseillère spéciale pour la religion, qui est une télé-évangéliste, Paula White, très connue, à la réputation assez sulfureuse. Mokhtar Benbarka, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur la question des grandes figures de l'évangélisme autour de Donald Trump ? Et puis, il y a une question moins précise sur laquelle je voudrais vous entendre, c'est est-ce que au fond tout cela n'est que de la pure communication ou est-ce que réellement cet entourage évangélique a une véritable influence sur sa politique, Mokhtar Benbarka?
Oui, effectivement, ce conseil évangélique consultatif, l'Evangelical Advisory Board, donc qui est chapeauté par Paula White, comme vous l'avez dit, et comme l'avait rappelé Madame Chélenipan, de grands télé-évangélistes, des pasteurs de méga-church, et pas que, parce qu'en tout, ce conseil comporte 24-25 personnalités, des avocats, de grandes figures de l'évangélisme blanc conservateur, également une figure de Tea Party, Michelle Bachmann, également. Ce conseil, bien évidemment, il est officieux, hein, donc il n'a aucune légitimité politique, qui, en principe, le guide dans sa vie spirituelle, mais qui lui prodigue des conseils en matière de politique, qu'elle soit intérieure ou politique étrangère. Donc c'est C'est un conseil. C'est pas la première fois. Attention, c'est pas spécifique. Il faut préciser que ce n'est pas spécifique à Donald Trump. Depuis Reagan, même avant, de toute façon, Billy Graham était l'ami des présidents, à commencer par Nixon. Et on a commencé avec Reagan à faire une équipe, j'allais dire, de constituer une équipe de conseillers spirituels. Et cette tradition s'est perpétuée. Obama avait un conseil.
C'est ce que j'allais vous dire, Obama aussi.
Bien évidemment. Ouais. Et puis c'était Obama, son conseil était composé de gens d'évangéliques progressistes. Donc ce que je mentionne dans mon ouvrage de 2014. Ce conseil va prendre peut-être un peu plus de visibilité avec notamment il y a un personnage assez très très actif, c'est Robert Jeffress du Texas, qui est actuellement à Fox News et qui part en campagne donc en faveur de Donald Trump. C'est un conseil, on va dire, beaucoup plus visible, beaucoup plus actif et qui essaye d'influencer, mais il serait excessif, bien évidemment, de dire que ce conseil influe directement. Il ne faut pas mélanger, je veux dire, la politique le système démocratique, heureusement, et les influences, j'allais dire, parallèles.
Blandine Chély-Nippon, j'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction ce magazine évangélique Christianity Today, qui début janvier a publié un édito assez virulent à l'encontre de Donald Trump, appelant à la destitution. C'était au moment où il est en pleine procédure de destitution, appelant même les fidèles à le faire battre dans les urnes. C'est pourtant un magazine qui n'a pas franchement l'habitude de s'immiscer dans la politique. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette prise d'opposition, Blandine Chély-Nippon, et qu'est-ce qu'elle nous dit précisément de l'état de forme, si je puis dire, précisément du camp progressiste évangélique, puisque c'est bien de ça finalement dont il est question. Il est aussi bel et bien là, ce camp progressiste chez les évangéliques.
Alors c'est un camp progressiste minoritaire, avec effectivement, j'allais dire, quelques grandes organisations, enfin grandes, en tous les cas connues, qui peuvent le représenter, Mohamed Ben Barka a travaillé là-dessus très spécifiquement, donc il sera sans doute meilleur juge. Mais comme par exemple le lobby, ou plutôt l'association qui s'appelle les Sojourners, et qui a une posture progressiste et qui appelle à voter pour des candidats démocrates. On peut dire que Christianity Today, c'est un vieux journal, enfin un vieux journal, un journal sérieux, enfin qui représente quand même la grande tradition évangélique historique et avant même évangélique, dans laquelle peuvent se reconnaître le lectorat de bonne qualité, on va dire, des églises mainline. Mais sa posture et sa position est montre plus la réduction du poids et de l'influence des églises mainline et la progression d'un évangélisme qui, en plus de ça, se dilue aussi, dans son identité. On comparait Billy Graham comme conseiller des précédents présidents, mais mettre Billy Graham au même niveau que Paula White, vous voyez, ça prouve qu'il y a quand même, une forme de décadence, ou en tous les cas de médiocrité plus importante qui explique, à mon avis, aussi ce hiatus. Il y a évangélique et évangélique. Voilà. Et je crois que au-delà de la minorité progressiste, Christianity Today représente la grande tradition évangélique.
Mokhtar Ben Barka, avant de passer aux perspectives historiques, un mot à ajouter sur ce camp progressiste évangélique? Et peut-être pour poursuivre un tout petit peu, savoir jusqu'où aujourd'hui ils sont mobilisés pour justement faire perdre Trump. Est-ce qu'ils ont, par exemple, un candidat chez les démocrates, un favori? Est-ce qu'ils soutiennent Biden? Est-ce qu'ils soutiennent Sanders? Où est-ce qu'on en est, Mokhtar Ben Barka?
Alors, la frange progressiste au sein de la communauté évangélique est minoritaire. Bien évidemment, elle est entre 6 et 10%.
C'est très minoritaire.
Ouais. En plus, elle n'a rien de comparable avec les évangéliques de droite, ce qu'on appelle la droite chrétienne, qui a les moyens, bien évidemment, qui fait du lobbying, et qui a un activisme de toute sorte. Alors que les évangéliques progressistes se battent sur des terrains autres, à savoir la justice sociale, la protection de l'environnement, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre l'islamophobie, et ainsi de suite. Donc, la paix dans le monde, la lutte contre la pauvreté, des thèmes plus de portée humanitaire. Ils ne cessent, bon, avec leurs moyens qui sont, je le redis, très limités. Hein. Donc, il y a des actions individuel de certains de figures de proue de ce courant, tels que Ron Sider, tels que Jim Wallis, qui était le conseiller personnel de Barack Obama. Alors,
et ils ont un champion ou une championne aujourd'hui?
Non, pour le moment, ils se prononcent pas directement. Ils essaient de comprendre les programmes des uns et des autres, mais ils n'ont pas pour le moment. Mm-hmm. Pour le moment, leur bataille c'est contre Trump. Donc et ceci à coup de contre manifestations, des pétitions, donc avec, je le redis, des moyens assez limités. Et, ils essayent, ils gagnent un peu plus de terrain puisque il y a au sein de la communauté évangélique, il y a une certaine, ce qu'on appelle une fracture, plus ou moins, dans la mesure où les jeunes évangéliques ont tendance à renoncer à la foi évangélique de leurs parents et vont s'inscrire beaucoup plus dans l'optique progressiste. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Chilinipan, il y a aussi des jeunes qui se réclament on ne se réclame d'aucune affiliation, donc d'aucune église. Et il y a en même temps ceux qui partent vers cette gauche progressiste. Et ce qui leur plaît, ce sont des thèmes tels que la justice sociale ou la protection de l'environnement et ainsi de suite. Donc elle prend de la vigueur, cette gauche. Elle est récente quand même, cette gauche évangélique, à peu près, c'est de 2004, donc suite à la déception ressenti après l'échec entre guillemets de la politique de George Bush par rapport à leurs revendications. Donc elle si vous voulez, sa cible c'est Trump pour le moment.
Blandine Chélinipon, venons-en à l'histoire, je le disais, parce que pendant longtemps, en réalité, ces évangéliques étaient assez en retrait de la vie politique américaine. Et puis, il y a un moment où ils vont rentrer de plein pied dans ce paysage politique. À quel moment ça se fait et pourquoi ça se fait? Disons-le tout de suite, c'est Carter.
Alors,
Jimmy Carter.
Oui et non. Alors, oui, Jimmy Carter est assez représentatif de ce qu'étaient les évangéliques avant. Avant, les évangéliques ont longtemps été démocrates. Ils ont été démocrates dans la mesure où la division entre partis, entre démocrates et républicains, était une division qui se faisait entre finalement les républicains représentaient religieusement les grandes dénominations, les blancs et les américains les plus anciens. Et les démocrates représentaient les chrétiens conversionnistes, comme sont les évangéliques, représentaient les minorités religieuses, les minorités religieuses récentes, non protestantes, et toutes les populations, finalement, qui devenaient américaines de manière progressive. Et il y a eu un renversement dans les années 60 de cette division confessionnelle, avec des, j'allais dire, le basculement des pratiquants chrétiens chez les républicains et des moins pratiquants laïcs, on va dire, et des minorités ethniques religieuses chez les démocrates. Et effectivement, les années 70, c'est le grand basculement officiel des évangéliques vers les républicains. C'est le début de la guerre culturelle. Ça a commencé avec les questions de l'avortement et de la lutte pour la défense de la famille. Mais dans les années 60, vous avez eu un premier basculement qui a été la fin de l'apartheid dans le vote. Avec les Noirs qui ont pu commencer à voter partout, avec la grande loi de 1965. Et les évangéliques blancs du Sud ont basculé du Parti démocrate au Parti républicain. Donc moi, je dirais qu'il y a deux moments, les années 60 et les années 70.
Sachant qu'avant cela, en réalité, une fois encore, ils n'étaient pas très très engagés. Il y a beaucoup d'évangéliques qui n'étaient même pas inscrits sur la liste électorale, en réalité, qui ne votaient pas.
Oui.
Mokhtar Ben Barka, pour regarder justement un peu ce qui s'est passé au moment de ce basculement, c'est vrai qu'il y a un autre homme un peu clé dans l'histoire, je parlais de Jimmy Carter, c'est Reagan, qui va être choisi finalement pour lancer l'offensive conservatrice du côté des évangéliques. Mais là encore, on parlait de Trump tout à l'heure, pour les courants évangéliques, c'était pas du tout une évidence que Reagan, c'était pas leur premier choix, si je puis dire. Pourquoi est-ce que finalement, ils ont fini par s'aligner derrière lui, Mokhtar Ben Barka?
Alors, en ce qui concerne Ronald Reagan, déjà, il faut préciser que les évangéliques avaient leur candidat, qui s'appelait Gary Bauer, et qui, comme par la suite, en 2016, comme Ted Cruz ou bien Marco Rubio, n'avait pas percé. Donc, il n'avait pas eu assez de votes. Il s'était reporté finalement sur Reagan. Reagan n'avait pas une vie morale exemplaire, du point de vue évangélique, j'entends. Il était divorcé, il n'allait pas au service d'une manière assidue, telle que par exemple Bill Clinton. Il avait des difficultés au sein de sa famille, donc c'était pas l'homme idéal. Et petit à petit, donc, ils lui ont fait. Sauf que il faut préciser également qu'il s'est déclaré, ça c'est une stratégie électoraliste, il s'est déclaré born again, un converti. Donc ça, et il a pu séduire les évangéliques qui au passage étaient déçus par Jimmy Carter, parce que en 76 ils avaient voté lors de leur retour sur la scène politique. Ils avaient voté pour Carter, tout simplement parce que Carter est un baptiste et born again. Donc,
et pourquoi cette déception à la gare de Carter?
Parce que Carter, il s'était d'emblée, alors ce qu'il voulait, bien évidemment, qu'il prenne des mesures en faveur du renforcement de structures familiales, de prendre des mesures contre l'avortement. Auparavant, il y avait les deux arrêts de la Cour suprême de 62 et 63 qui interdisaient la lecture d'un passage de la Bible ou de faire une prière. Tout ceci et bien évidemment l'arrêt de 73 légalisant l'avortement, toute cette série d'arrêts de la Cour suprême qui en force auparavant, au passage force de loi, vont entre guillemets détruire la société, la moralité chrétienne, selon leurs termes. Et au lieu de cela, il s'est intéressé aux droits de l'homme. Carter avait une politique tout sauf ce à quoi ils s'attendaient ou ils aspiraient. Donc ils étaient déçus par lui et ils s'étaient rabattus donc finalement sur Donald Trump. Pour ce faire, ils vont constituer toute une série de lobbies politico-religieux qui s'appellent la droite chrétienne. Et au cœur de ce dispositif, il y avait la majorité morale, moral majority, fondée par le père de Jerry Falwell, Voilà.
Allez, alors, justement, peut-être, Blandine Chély-Nippon, faut-il revenir un peu sur ce moment-là, qui est un moment important, parce qu'effectivement, la pénétration des idées évangéliques conservatrices à l'intérieur du Parti républicain vont se faire à travers cette fameuse organisation, la Moral Majority, qui, effectivement, Jerry Falwell va être l'une des grandes figures qui vont largement participer à la fondation de cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'il y a derrière cette organisation et l'influence qu'elle va avoir sur la politique américaine? Parce qu'il faut rappeler, Jerry Falwell, à l'époque, ce n'est qu'un télé-évangéliste qui a effectivement beaucoup de succès dans le paysage médiatique, qui pendant effectivement les années 70 a un petit peu surfé cette vague de mécontentement au sein des courants évangéliques à l'égard de Carter. Mais comment est-ce qu'on parvient à ce point à avoir une influence sur le Parti républicain, Blandine Chély-Nippon?
Bien, j'ai pas mal travaillé sur la constitution de la droite chrétienne américaine, parce que en étudiant ces mouvements et ces phénomènes, je me suis aperçue que le conservatisme ou la naissance du conservatisme religieux à connotation religieuse incluait les évangéliques, mais pas seulement, et que une partie non négligeable de cette coalition qui s'est mise en place à la fin des années 70 vient du monde catholique. Donc il y a eu aussi, et c'est à la fois parallèle et ça se coalise, il y a eu aussi un basculement électoral progressif des catholiques depuis le monde des démocrates jusqu'au monde des républicains, par le prisme d'une famille qui s'est mise en place dans les années 60, à fin des années 50, début des années 60, et qui a pris ensuite des postures très morales, familiales, dans les années 70. Il y a eu une famille qui s'est constituée de droite catholique, et on la retrouve à l'origine aussi de la formation de la Moral Majority, la majorité, et de la Christian Coalition à la fin des années 80. Donc aujourd'hui, dans la droite religieuse américaine, qui a elle-même un peu noyauté le Parti républicain, mais il reste d'autres morceaux dans le Parti républicain qui n'ont rien à voir avec la droite religieuse. Mais la droite religieuse, c'est les évangéliques, mais d'autres, d'autres chrétiens, et parmi la moitié, ce sont des catholiques.
Mokhtar Ben Barka, un mot à ajouter peut-être sur ce plan-là pour comprendre comment justement les évangéliques conservateurs ont noyauté, peut-être le terme est un tout petit peu fort, mais en tout cas on comprend l'idée, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une influence de plus en plus forte sur le Parti républicain, Mokhtar Ben Barka. Et puis ensuite on ira du côté de la Bolivie, on va accueillir un nouvel invité.
Oui, effectivement, comme l'a rappelé Madame Chély-Nippon, c'est que la Moral Majority, elle est au cœur de ce grand dispositif qu'on appelle la droite chrétienne américaine ou la droite religieuse. Et effectivement, elle est majoritairement évangélique, mais pas que. Effectivement, il y a pas mal de catholiques et qui vont faire cause commune avec les évangéliques sur le thème, par exemple, de l'avortement. Il y avait des mormons et il y avait énormément de membres de petites églises approuve l'anticommunisme prôné par cette droite chrétienne. Donc cette coalition va petit à petit dominer le parti républicain, et elle va être c'est une constellation, à vrai dire, de lobby, ce qu'on appelle single issue groups, donc des formations qui se spécialisent dans un thème particulier et qui vont avoir une configuration à géométrie variable en fonction des circonstances. Et c'est que cette droite chrétienne a les moyens, et elle va faire du lobbying. Et là où elle va s'imposer, elle va faire du lobbying directement dans les couloirs du Congrès. Elle a les moyens. Elle va être financée par des riches mécènes. Donc,
Et pourquoi la gauche chrétienne n'arrive pas à faire la même chose, Mokhtar Ben Barka?
Elle ne veut pas se compromettre avec ses grands bonnets, tout simplement. Hein. Donc, ouais. Elle veut être... Il y a une intégrité morale qu'elle veut préserver. Il y a des principes moraux qu'ils défendent.
Donc, trop de principes dans la gauche chrétienne américaine.
Absolument.
Qui l'empêche de faire remporter ses candidats.
Peut-être pas, mais il y a cette différence absolument dans la vision des choses et dans la manière de faire absolument.
Blandine Chélé-Nippon, vous vouliez réagir en quelques mots et ensuite on parle de la Bolivie.
Oui, je pense qu'il y a aussi une question de temps. Ça fait longtemps que les conservateurs chrétiens se mobilisent. Donc il y a quand même un écart extraordinaire entre...
40 ans la morale majoritaire, voilà. 40 Exactement. Ans, 4 décennies.
Exactement.
On est avec vous, Blandine Chélé-Nippon, et vous, Mokhtar Benbarka, dans cette série consacrée à la foi politique et au pouvoir religieux, les évangéliques. Salut électoral de Donald Trump, direction la Bolivie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que él nos bendiga.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Voilà, cette voix qu'on entend, c'est celle de Jeanine Agnès, qui avait pris la présidence par intérim après le départ forcé du président Evo Morales, qui avait démissionné sous la pression de la rue après des contestations post-électorales très importantes. Le pays maintenant se prépare pour une nouvelle élection, à laquelle d'ailleurs Jeanine Agnès sera candidate. Qu'est-ce qu'il faut en attendre et quelle y sera la place de la religion et des mouvements évangéliques? Bonjour Hugo José Suarez.
Bonjour, un plaisir d'être ici avec vous, un plaisir de parler de la Bolivie et de la question religieuse qui est maintenant au centre de la question politique et dans le pays.
Eh bien, plaisir partagé. Alors, justement, c'était un peu le sens de ma première question, figurez-vous, José Suarez, parce qu'on avait été un tout petit peu étonnés de voir Jeanine Agnès brandir cette Bible comme elle l'avait fait pour prêter serment, expliquer qu'elle allait enfin remettre la Bible au cœur du palais présidentiel. On avait eu Morales qui était passé par là, qui lui... Alors même s'il était catholique, mais il était plutôt dans une démarche de sécularisation de l'État. Il y avait une révision constitutionnelle en 2009 qui avait fait du pays un État laïque. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que justement, la religion fait son grand retour en Bolivie. Et alors en particulier, Hugo José Suarez, quelle serait la place des évangéliques dans ce retour?
Moi, je sens que d'abord, il faudrait un peu nuancer la thèse du grand retour. Mmh. Et aussi, il faudrait nuancer la thèse de comment est-ce que Morales, il a fait, ou il a essayé de faire un pays laïque. Et un peu pour comprendre tout le processus. Alors, ça, je veux dire deux choses tout d'abord, et après j'arrive à la dernière question. D'abord, il faut dire que la question du rapport entre la religion et la politique en Bolivie, il était là depuis longtemps, et il était toujours, depuis le début de la République, il était toujours une tension. Pas très bien, on l'a pas su résoudre très bien, parfois oui, parfois non, ça dépend des périodes historiques, et il a eu différents moments, différentes positions, et avec une participation avec différentes caractéristiques. Cela étant dit, une fois qu'il arrive Evo Morales à la présidence, il y a deux choses qui sont très importantes. D'un côté, c'est il met à l'Église catholique dans une nouvelle place dans la vie publique. Ça, c'est très important parce que, alors la Constitution, il finit d'être une constitution d'un pays qui se disait à soi-même qu'il est catholique. Et alors, il devient un pays qui n'est pas catholique, donc il est un pays plutôt, c'est pas exactement le mot laïque, mais plutôt qu'il n'a pas une religion officielle. Ça c'est très important du côté de la Constitution de 1909. Cela étant dit, à partir de là, le rapport avec l'Église catholique, il devient parfois un peu plus aimable, parfois un petit peu plus avec d'intention, mais il ne faut pas oublier que même le pape Francisco, il a visité, ils ont eu un échange très amable avec le président. Je veux dire, il n'a pas eu exactement un processus de sécularisation comme on pourrait la comprendre.
D'accord, c'est un petit peu fort.
Parce que finalement, il a mis dans le centre de la question d'État la présence de religiosité indigène d'une façon très 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 centrale.
Oui.
Donc lui-même, il a, disons, construit différents points, des ponts avec la culture indigène et la question, la religiosité indigène. Et ça, on peut le voir dans la Constitution, et on peut voir aussi dans, dans plusieurs actions que lui-même il a fait, comme de rituels, de cérémonies dans le même palais. Et avec deux cérémonies indigènes.
Donc il faut un peu nuancer, j'entends parfaitement la chose, Hugo José Suarez, c'est-à-dire il faut nuancer un peu cette idée d'une laïcisation, d'une sécularisation par Evo Morales. Il n'empêche qu'il semble quand même que cette question religieuse soit très importante aujourd'hui. On le voit dans la campagne avec les différents candidats, on l'a vu dans la précédente campagne avec quand même la participation d'un candidat pentecôtiste, qui est un prédicateur pentecôtiste, qui a fait quand même 8% des voix. Certains médias l'ont qualifié de Bolsonaro bolivien. Alors, je ne sais pas jusqu'où la comparaison peut tenir, mais il semble quand même que ce prédicateur pentecôtiste soit aussi peut-être l'illustration d'une vraie montée en puissance du pentecôtisme, des évangélismes dans le pays, non ?
Oui. Mais et voilà, dans une deuxième tombe, je pense qu'il faut dire que, dans ce climat-là, parce que c'est pas un autre scénario, dans ce climat-là, oui. Et c'est que dans les élections de octobre de l'année passée, il y a un nouveau passage, un nouvel épisode de la question religieuse en Bolivie dans la politique. Et ça, c'est clair. Alors, dans ce nouveau épisode, il y a différentes caractéristiques. D'un côté, il y a la présence d'un pasteur, vous le venez de dire, Chi Chung, que lui, il est pasteur et il a sorti de rien, parce qu'il était rien partout, personne ne le connaissait dans le monde politique, et il est arrivé à avoir un 8% dans le résultat électoral, que c'est est complètement nouveau pour la politique bolivienne. Mais aussi, bon, ça c'est le côté néo-pentecôtiste, mais aussi du côté néo-catholique conservateur, il a paru de cette expression très 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 fort, plutôt avec des signes catholiques, et surtout avec le comité civique au Santa Cruz, dans lequel toutes ces images qu'on connaît bien, que d'abord il était Camacho, le monsieur là qui l'a demandé de démissionner dans 48 heures, etc.
Luis Fernando Camacho, donc de cette droite catholique conservatrice.
Oui, c'est une droite catholique. Oui, voilà, un néo-catholicisme, disons conservateur, duquel font partie Agnès, mais aussi Camacho, et que maintenant, si on voit un peu le premier sondage, on a là une population très importante qui sont soit du côté d'Agnès, soit du côté de Camacho, ou soit du côté du pasteur Chi. Donc, c'est clair que maintenant, il y a ça dans la nouvelle situation du scénario politique bolivien.
C'est d'ailleurs assez étonnant de se dire que cette droite catholique conservatrice soit à ce point divisée avec Agnès et Camacho. Je rappelle quand même quelques chiffres, c'est important pour savoir de quoi on parle. Le candidat du mouvement vers le socialisme, qui est donc en fait le dauphin de Morales, est pour l'instant très, très en tête dans les intentions de vote, avec un peu plus de 30% des intentions de vote, devant l'ancien chef de l'État centriste Carlos Mesa, qui est à peu plus de 17%. Et puis ensuite vient donc cette conservatrice Jeanine Agnès à peu près 16%. Si on revient sur la question de la religion, Hugo José Suarez, on parlait à l'instant avec Mokhtar Ben Barka et Blandine Chelly-Nippon de la place de ces mouvements évangéliques dans le paysage politique américain aujourd'hui, de la manière dont ils avaient pénétré justement la politique aux États-Unis avec Carter, avec Reagan aussi, avec ce basculement depuis le Parti démocrate vers le Parti conservateur. Est-ce que vous pensez que l'extérieur, les pays voisins, en l'occurrence je pense évidemment aux États-Unis et peut-être aussi au Brésil où là aussi les mouvements évangéliques ont été très forts et ont largement poussé pour que Bolsonaro soit au pouvoir, est-ce que vous pensez qu'on imite d'une certaine manière ces deux voisins ? En tout cas que ça a de l'influence.
Là c'est une tension analytiquement compliquée. Je voudrais mettre plutôt comme une tension analytique, hein, parce que c'est difficile de dire une seule voix dans ce niveau-là. Parce que c'est, et pour le second, et Bolivie, c'est un tout petit pays et dans lequel le rapport entre le voisin, c'est le pays une des plus petites de l'Amérique latine, dans le sens économique et de pouvoir, Et alors, on a un rapport avec le Brésil, que c'est un monstre, c'est un pays énorme à côté de la Bolivie, et bien sûr avec les États-Unis, que c'est un impair énorme aussi. Et donc, on a un rapport tout à fait important, et qui vient aussi du début, et que ça dépend de différents moments. Donc, on ne sait pas expliquer ce qui se passe dans la Bolivie, bien entendu, sans ça prend cette variable du rapport à l'extérieur, dans la vie politique, dans la vie économique et dans la vie religieuse. Ça, c'est quelque chose qui est absolument clair. Mais cela étant dit, on ne sait pas expliquer tout non plus par ce qui se passe dans le voisin. Donc c'est pour ça que j'aime pas la comparaison Bolsonaro Agnès, parce que là, quand on pense ça, on pense plutôt à Brésil et pas à Bolivie. Et alors, dans les années 80, 70, etc., il a eu un peu l'hypothèse que la grande transformation, la mutation de la question religieuse en Amérique latine, et alors la façon comme il a grandi le pentecôtisme, c'était finalement à cause de l'influence des États-Unis. Et il avait une partie qui était vraie. Mais l'explication, elle n'était pas complète, parce que après on a vu que le entreprise religieuse la plus importante de l'Amérique latine était surtout locale, soit au Brésil, au Mexique, etc. Donc, pour la Bolivie, ça marche de la même façon. Il y a quand même une façon, un rapport, un rêve finalement de certains secteurs de avoir un peu le scénario Bolsonaro pour le dire d'une façon comme ça, mais même si j'aime pas beaucoup la comparaison. Mais je pense qu'il faut surtout essayer de comprendre un peu la propre façon de pénétration de comment est-ce qu'il a grandi le pentecôtisme local. Là, ils ont eu finalement une possibilité d'arriver dans certaines couches sociales et de profiter finalement la partie catholique, et ils ont eu un résultat intéressant. Et depuis longtemps, depuis quelques années, depuis quelques décennies, la participation, il a monté d'un côté de Fidel, il a eu de plus en plus un peu plus. Après, du côté du médias, il y a eu de plus en plus quelques médias pentecôtistes. Et après, dans la participation et politique, il a eu de représentations politiques en Bolivie. Mais on peut pas dire du tout qu'il a eu la bancada pentecostale. Ça, on n'a pas eu dans le cas bolivien. Et maintenant, c'est le seul cas dans lequel on a vraiment une présence tellement politisée d'un candidat, d'un côté d'un candidat qui est un pasteur, et de notre côté d'autres candidats qui ne sont pas des pasteurs, qui sont plutôt d'un catholicisme conservateur, qui prend le signe catholique. Là,
alors, Hugo José Suarez, il faudra qu'on y revienne, on aura l'occasion d'y revenir, parce que les élections sont dans quelques semaines, donc on vous réinvitera pour en parler. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment auteur de Bolivie, la révolution démocratique. Je remercie infiniment les invités qui étaient avec nous ici ce matin pour nous éclairer sur l'évangélisme américain, Blandine Chelly-Nippon et Mokhtar Benbarka, qui était en duplex avec nous de Lille. Et on mettra évidemment les références de vos ouvrages à l'une et à l'autre sur la page de Culture Monde. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous.
Merci à vous. Rendez-vous demain évidemment pour un deuxième volet sur cette série consacrée à la foi politique et au pouvoir religieux. Mais tout de suite, on retrouve Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian. Et
on a souvent comparé Brice, l'écrivain hongrois Sándor Márai, à l'Autrichien Stefan Zweig. Pourquoi ?
Parce que la ressemblance entre ces deux intellectuels centre-européens est frappante. Même s'ils n'appartenaient pas exactement à la même génération, Zweig était né en 1881 et Márai 19 ans plus tard, en 1900. Et surtout, Márai a vécu beaucoup plus longtemps que Zweig. Le hongrois s'est suicidé en exil à San Diego, en Californie, en 1989, et il avait 89 ans, donc l'Autrichien, lui, a mis fin à ses jours au Brésil. En 1942, ils n'avaient que 60 ans. Hormis leur suicide, en exil, loin de leur patrie, ces deux écrivains ont en commun d'avoir été relativement négligés, puis redécouverts longtemps après leur disparition. Et leurs œuvres, d'avoir fait l'objet d'une réévaluation récente et amplement méritée. Elles s'accordent l'une et l'autre à un air du temps fait de nostalgie pour l'époque où l'Europe possédait un certain attrait, un certain charme, où elle apparaissait comme une civilisation. Mais surtout, ces œuvres, elles témoignent du sentiment de tragique impuissance ressenti par ces intellectuels épris d'Europe face aux immenses désastres du XXe siècle européen. Zweig n'a pas supporté d'assister à une nouvelle crise suicidaire de délire nationaliste. Il a confié ses souvenirs et ses regrets à un livre devenu aujourd'hui classique, Le Monde d'hier. Marai, lui, resté en Hongrie pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est muré dans le silence afin de ne pas cautionner l'alliance du gouvernement de son pays avec l'Allemagne nazie. Puis, face à la mise au pas de la littérature par le pouvoir communiste, il a choisi l'exil en 1948. Il ne devait plus jamais revenir en Hongrie, son pays où ses livres d'avant-guerre, qui avaient connu un immense succès, étaient désormais interdits. « Même si je survis », écrit Marai en 1943, « jamais plus je ne reverrai l'Europe que j'ai connue. Donne de la force à mon âme, mon Dieu, de la force pour que, si je survis, mon âme supporte tout ceci, de la force pour mourir en paix et sans gémir si cette tempête m'emporte, de la force pour que je puisse rester fidèle à mon âme et à tout ce en quoi j'ai cru jusqu'à la dernière minute. » Et comme en écho, on lit dans la préface du Monde d'hier de Zweig, « Et c'est ainsi que je n'ai plus de lien nulle part, étranger partout, hôte tout au plus là où le sort m'est le moins hostile. Même la vraie patrie de mon cœur a élu, la vraie patrie que mon cœur a élu, l'Europe, est perdue pour moi, depuis que pour la seconde fois, prise de la fièvre du suicide, elle se déchire dans une guerre fratricide. J'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu'atteste la chronique des temps. Entre notre aujourd'hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts ont été rompus. » Eh bien, les éditions Albin Michel, auxquelles on doit la redécouverte de l'œuvre de Sándor Márai, nous avaient déjà proposé le volume fascinant intitulé « Mémoires de Hongrie ». C'était rédigé en exil, 20 ans après les faits, et l'écrivain hongrois y racontait le choc culturel ressenti lors de la deuxième occupation de son pays, après les Allemands, les Soviétiques, j'y reviendrai. Mais tout récemment, nous avons pu découvrir les notes prises au jour le jour par Marai entre 1943 et 48, sous le titre « Journal les années hongroises » et dans une traduction de Catherine Faye, est ainsi rendu disponible en français la première partie du journal intime de Sándor Márai. L'édition hongroise intégrale de ce journal, redécouvert récemment, comporte 18 volumes, il a fallu trier.
Alors Brice, pourquoi ce journal de Márai est si intéressant?
Parce qu'il nous fait pénétrer dans l'atelier d'un grand écrivain européen. Et il nous livre le regard d'un grand intellectuel sur une série d'événements dramatiques. L'occupation du pays par les Allemands, l'arrivée au pouvoir des nazis hongrois, les fameuses et horribles croix fléchées, l'enfermement des 200 000 juifs de Budapest dans un ghetto en vue de leur déportation vers le camp d'extermination d'Auschwitz, les combats d'une extrême violence de l'hiver 44-45 entre les Allemands et leurs supplétifs hongrois d'un côté et l'armée rouge qui progresse rue par rue, puis l'occupation soviétique et la communisation d'un pays où le communisme était extrêmement impopulaire, le resserrement du nœud coulant de la dictature, l'opportunisme des uns, le courage des autres. Marai était un lecteur cosmopolite, il possédait une bibliothèque de 5000 volumes qui fut en très grande partie détruite lors du bombardement de son immeuble. Pendant la guerre, il dévore la littérature européenne de toutes les époques, Shakespeare, Tolstoï, Montaigne, Rilke, André Gide, Ortega et Gasset dont ils se sont proches. Mais il se montre également un défenseur attentionné de la littérature hongroise, dont il déplore qu'elle soit aussi injustement méconnue hors du pays. Un des derniers livres publiés en Hongrie par Marai, c'était « Dernier séjour à Budapest ». C'était un hommage à l'un des écrivains préférés de Marai, Gyula Krudi, et à son héros Sinbad. « Il s'agit, écrivait Marai, de dissiper le silence assourdissant dans lequel s'était perdu l'œuvre de ce grand écrivain et de réparer cette injustice au-delà de la tombe. » Eh bien, c'est ce qui arrive en ce moment à l'œuvre de Marai. Et je reviendrai demain en détail sur ce journal de Sándor Márai, dont je rappelle donc qu'il vient de paraître chez Albin Michel.
Merci beaucoup Brice Couturier. Ben, on se retrouve demain donc pour continuer à parler de Marai. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.